Et là, on lit donc dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et on va dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Et on lit les versets 30 à 34. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ou aussi, on peut dire, les plus à plaindre de tous les hommes. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, qu'ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà, ces quelques passages pour introduire notre prédication d'aujourd'hui, quelques passages qui résument bien dans quel contexte nous nous trouvons en parcourant notre galerie des héros de la foi. Ce qu'aussi toute la fin du chapitre 11 nous confirmera amplement et confirmera ce verset 19 de 1 Corinthiens 15. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes parmi tous les hommes les plus à plaindre. Ce que tous ces passages viennent confirmer, c'est que la vie, et souvent la vie difficile, de tous ces témoins de la foi, avait un seul but, une seule direction, la patrie céleste. Et en attendant, remplir le mieux possible leur mission sur la terre, c'est-à-dire pour rendre gloire à Dieu. Alors quand je vous dis tout ça, ça vous donne peut-être l'impression que je vous parle de gens parfaits, que ces témoins de la foi étaient irréprochables, des hommes et des femmes de Dieu aux standards moraux à des kilomètres au-dessus des nôtres. Mais en fait, il n'en est rien, comme nous allons le voir encore aujourd'hui. Non, l'Éternel emploie des gens de toutes sortes, avec leurs défauts, même avec leurs péchés. Et il accomplit ses desseins glorieux au moyen de gens de foi, certes, mais qui sont encore à bien des égards méprisables. Parce que c'est par le Christ que nous obtiendrons notre place dans la patrie céleste, à cause de l'amour de Dieu pour nous, de toutes ses compassions à l'égard des gens de son peuple que nous sommes. Peut-être que vous vous en souvenez, la dernière fois, nous avons sauté Jéricho, passé par-dessus. On n'a pas fait sauter Jéricho, on a passé par-dessus. C'est pas nous qui avons fait sauter. Alors, comme je ne voudrais pas rallonger cette prédication, parce qu'il me semblait bien de passer en revue quatre noms qui figurent dans le livre des Juges, et ça d'autant plus qu'on ne connaît généralement pas bien ce livre, j'aimerais m'y arrêter un peu plus longtemps que l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur ces quatre personnages du livre des Juges. Donc on en parle dans un instant. Mais on s'arrête maintenant brièvement sur Jéricho. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors allez donc lire cette histoire au 6e chapitre de Josué. Mais juste quelques mots. Jéricho, c'est la première ville qu'il faudra prendre, que le peuple d'Israël devra prendre sitôt qu'il aura passé le Jourdain pour pénétrer dans le pays de Canaan et le conquérir. Conquérir le pays promis. Jéricho, c'est une ville fermée, barricadée, avec de grandes murailles, des portes infranchissables, et dont les habitants étaient certainement armés jusqu'aux dents. Bref, une ville invincible. À vue humaine, ce n'est même pas la peine d'y aller. Il fallait se frotter à ces murailles. Ce serait une perte de temps, sans compter la perte en hommes. Mais que dit l'Éternel à Josué ? Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je les livre. Et toi, tu n'auras à faire que ce que je te dirai. Pendant 6 jours, tu feras le tour avec tous les hommes de guerre, le tour de la ville. Le 7e jour, vous en ferez 7 fois le tour. Vous n'aurez pas à combattre, mais seulement au son des trompettes et de la corne retentissante, tout le peuple poussera des cris, et alors la muraille s'écroulera. Et vous n'aurez plus qu'à prendre la ville, tombée entre vos mains comme sur un plateau. Et la leçon ici, c'est encore une fois la stricte obéissance, qui est le critère d'une foi véritable. Obéissance aux directives de Dieu qui permet de remporter des victoires complètement inespérées. Le psaume 60, verset 14, nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jéricho. Voilà, c'est déjà fini pour Jéricho. Alors, on va maintenant un peu plus loin. Donc, dès maintenant, l'auteur de notre lettre aux Hébreux se contente de citer juste quelques noms parmi les illustres personnages de la Bible. Juste quelques noms, simplement pour dire que eux aussi étaient animés de cette même foi qui permet d'être agréable à Dieu et d'obtenir la rémunération, c'est-à-dire l'entrée dans le royaume de Dieu. Entrée que nous n'obtenons, encore une fois, que par le Seigneur Jésus-Christ, comme l'auteur nous l'a abondamment prouvé dans les chapitres précédents. Cette foi qui nous rend agréable à Dieu regarde au-delà des difficultés. Et cette fin de chapitre est assez éloquente à ce sujet. Les quatre premiers noms que nous trouvons ici sont donc tirés du livre des Juges. Le livre des Juges vient juste après celui de Josué. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'étaient les juges? Quelle était leur fonction? Dans quel but Dieu les appelait à son service? Le plus simple, c'est que nous lisions le texte qui répond lui-même à ces questions. C'est dans Juges 2, et on va lire les versets 7 à 19. Dans Juges 2, donc après le livre de Josué, les versets 7 à 19. Et soyez attentifs à cette lecture pour bien comprendre la situation. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Voilà donc la situation. En fait, ce qui ressort assez clairement du livre des juges, c'est qu'après la mort de Josué, les Israélites n'avaient en fait plus de chef à leur tête. Et ça partait un peu dans tous les sens. D'ailleurs, quatre fois dans le livre, il est clairement indiqué que si Israël avait eu un roi, les choses se seraient passées différemment. Par exemple, le dernier verset du livre dit ceci: « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Bon, vous savez, dans l'Église non plus, ce n'est jamais favorable que chacun fasse ce qui lui semble bon. Et c'est bien joli de quitter les églises établies pour se créer sa petite église de maison. Ça ne correspond tout simplement pas au modèle biblique. Et c'est donc une désobéissance à Dieu qui peut conduire à beaucoup de confusion et d'erreurs. Je ne dis pas que l'Église établie est forcément préservée de l'erreur ou de l'égarement, loin de là, mais elle répond en tout cas à la volonté de Dieu, en ce sens qu'elle a déjà des hommes à sa tête pour la diriger, la nourrir, la protéger, et tout ça sous la seigneurie du Christ. Donc, pour revenir au juge, il n'exerçait pas à proprement parler la justice dans le peuple d'Israël, mais était plutôt des libérateurs, des chefs d'armée, assez costauds parfois, que l'Éternel donnait à son peuple en réponse à son repentir. Tout d'un coup, le peuple se rendait compte que ça n'allait vraiment plus du tout, il se repentait. Ils criaient à Dieu, et Dieu leur suscitait un juge pour les délivrer. Et c'est arrivé souvent, puisqu'on compte pas moins de 12 juges dans ce livre. Mais on peut dire qu'ils étaient en fait 13, si on y ajoute encore Samuel. Ça dépend comment on compte. Mais malheureusement, on sait que la rébellion des Israélites envers leur Dieu ne s'éteindra pas avec le dernier juge. Elle persistera très longtemps. Elle culminera même quand les Juifs rejetteront et crucifieront leur Messie. Elle dure encore aujourd'hui, puisqu'ils ne reconnaissent toujours pas Jésus-Christ comme leur Sauveur, ni bien sûr comme leur Seigneur. Alors, on revient dans notre 11e chapitre. En tête de cette petite liste, nous avons Gédéon. Il est le 5e juge d'Israël. Et sort de la tribu de Manassé. Dieu l'a donc appelé à cette fonction de juge, comme on vient de le comprendre, parce que, châtiés par l'Éternel, les Israélites se sont repentis de leur idolâtrie. Et en conséquence, Gédéon les délivrera de l'oppression des Madianites, Madianites qui étaient l'instrument du châtiment de Dieu sur eux, sur les Israélites. Vous vous rappelez probablement que Gédéon, c'est celui qui avait demandé un signe, puis encore une confirmation au moyen de la toison et de la rosée. Cette toison, ici, c'était une peau de mouton avec sa laine, ou peut-être seulement un paquet de laine. Donc Gédéon voulait être bien certain que c'était Dieu qui l'appelait à ce combat contre les Madianites. Gédéon s'est révélé être un homme obéissant et courageux. Et vous savez, l'obéissance et le courage sont deux piliers essentiels de la foi. Pour accomplir les œuvres de Dieu, il faut obéir à sa volonté. Mais souvent, pour obéir, il faut avoir du courage. Premièrement, courage d'aller contre notre propre volonté. Contre les aspirations de notre chair, contre notre confort, contre nos loisirs, ce qui nous fait plaisir. Parce que nos délices, nous devons d'abord les chercher en Dieu. Mais le courage, ici, c'est surtout celui de persévérer malgré les persécutions, malgré toutes les difficultés inhérentes au fait que nous vivons dans un monde de péché. C'est inévitable que les persécutions nous tombent sur la tête. C'est inévitable. L'obéissance et le courage de Gédéon sont tout particulièrement manifestés d'abord sitôt après que Dieu l'ait appelé, quand il a fait le ménage dans la maison de son père, dans la maison familiale, où il a été jusqu'à renverser l'idole que son père vénérait. Hein, on a vu que les Israélites avaient perdu la tête, ils revenaient au Baal, aux Astarté, et donc le père de Gédéon avait une idole chez lui. Renversé, allez, il a fait le ménage. Et puis, comme je le disais, l'obéissance et le courage de Gédéon se sont manifestés aussi dans la délivrance des Madianites, où, répondant à l'appel de Dieu, Gédéon a renvoyé à la maison la plus grande partie des soldats de son armée. Et à force d'en renvoyer, il n'en est plus resté que 300. Alors, 300 contre une immense armée de Madianites. Mais bien entendu, le dessein de l'Éternel, là encore, était que les Israélites attribuent exclusivement la victoire à Dieu. La foi de Gédéon. Oui, l'obéissance et la confiance, le courage mènent à la victoire parce que c'est Dieu qui combattra pour nous. Après Gédéon, Barak. Barak. Alors là, c'est un peu étonnant. Peut-être que vous vous souvenez pourquoi c'est étonnant. Bon, d'abord, ce qui ne saute pas aux yeux, c'est que dans cette petite liste de juges, en fait, Barak est un intrus. Il n'a jamais été juge. Il a seulement collaboré avec un juge, ou plutôt une juge. Puisqu'il s'agissait d'une femme, Déborah. Déborah, qui était aussi prophétesse. Et donc, Barak, dans le passage du livre où il nous en est parlé, on voit tout ça dans les chapitres 4 et 5 des juges, Barak passe plutôt au second plan. Hein. D'abord parce que c'est Déborah qui lui transmet l'ordre de Dieu de lever une troupe de 10 000 hommes. Alors ceci, juste dit entre parenthèses, la question n'est pas de savoir pourquoi avant 300 hommes suffisent et maintenant il en faut 10 000. Non, la question est toujours de se conformer à l'ordre de Dieu. Donc Barak doit lever des troupes pour riposter contre Sisera et son armée de Cananéens qui les opprimaient. Toujours pour la même raison, il les opprimait parce qu'ils étaient un instrument que Dieu employait pour châtier son peuple idolâtre. Mais donc, ce qui s'est passé avec Barak, c'est qu'il voulait bien attaquer les Cananéens, mais à la condition que Déborah, qui venait de lui transmettre l'ordre de Dieu, à la condition que Déborah vienne avec lui. On voit ça en Juge 4, verset 8, où Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Alors, disons-le tout de suite, la femme en question ne sera pas Déborah, mais Yaël. Yaël, qui n'était pas du tout israélite, puisqu'elle faisait partie des Kéniens, un peuple païen qui s'était établi dans la tribu de Juda. Mais Yaël nous donne l'impression d'être une cousine de Rahab. Elle n'était pas une cousine de Rahab, je dis elle nous donne l'impression. Pourquoi ? Rahab était prostituée. Elle avait caché chez elle les explorateurs israélites venus à Jéricho avant que le peuple d'Israël passe le Jourdain. Donc je dis une cousine de Rahab. Pour dire que bien que Yaël ait été une païenne, comme Rahab, elle démontre qu'elle avait pris parti pour le peuple de Dieu. Et de quelle manière ? Eh bien, par une ruse un peu semblable à celle de Rahab. L'armée des Cananéens dont le chef était Sisera, venait d'être vaincu par Barak. Barak, avec Déborah, a vaincu l'armée de Sisera. Mais il ne restait plus que Sisera. On ne l'a encore pas trouvé, le chef. Le dit Sisera que Yaël va presser d'entrer chez elle, dans sa tente, pour le cacher sous une couverture. Hein, Rahab qui avait caché les Israélites. Et maintenant, il y a Yaël qui cache Sisera. Mais voilà que Sisera, se sentant bien en sécurité dans la tente de Yaël, et harassé par les combats, le voilà qu'il s'endort. Et c'est là que la prophétie de Déborah s'accomplit, quand elle disait que c'est par une femme que la victoire va être remportée. Yaël saisit un piquet de sa tente et à l'aide d'un marteau, pof, pof, l'enfonce dans la tempe de Sisera. Voilà alors que Barak passe par là, toujours à la poursuite de Sisera. Et c'est comme ça que Yaël sortit de sa tente et lui livra Sisera. Voilà. Tout ce que je viens de vous raconter là nous enseigne, avant qu'on dise un mot de la foi de Barak, nous enseigne que dans la Bible, il y a beaucoup de héros de la foi. Mais comme le dit très bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne peut pas parler de tout le monde quand on veut juste en donner quelques exemples. Et justement, si on parle de Barak, lui qui a tenu à ce que Déborah l'accompagne dans la bataille contre Sisera et son armée, lui qui a accepté qu'aucune gloire ne lui soit attribuée après la victoire, eh bien, nous pouvons reconnaître en Barak un homme qu'on aurait peut-être préféré voir partir en guerre sans Déborah, mais qui finalement, en s'assurant de la présence de cette femme, pensait peut-être aussi s'assurer de la présence de Dieu, puisqu'elle était prophétesse et juge en Israël. Mais surtout, et là, aussi bien avec la présence à ses côtés de Déborah qu'avec la victoire contre Sisera, remportée pas par lui, mais par Yaël, nous pouvons contempler en Barak un homme humble qui a fait preuve, et ça ressort tout particulièrement avec Barak, qui a fait preuve d'un courage et d'une obéissance désintéressée envers Dieu. Il a travaillé, il s'est dépensé pour le peuple de Dieu, pas pour lui-même, pas pour en tirer gloire, mais pour la gloire seule de Dieu. Et nous voilà à Samson. À ne pas confondre avec Salomon. Samson est un juge pour le peuple d'Israël. Le dernier juge, en fait. Entre parenthèses, on voit que l'auteur de notre épître ne se soucie pas de les mentionner dans l'ordre, puisqu'il va encore, juste après Samson, citer Jephté, comme on le verra. On connaît tous une caractéristique peu commune de Samson. Vous en souvenez ?
Les cheveux longs.
Oui. Et la force. Les cheveux longs et la force. Sa force prodigieuse. Et savez-vous de quoi lui venait-elle cette force prodigieuse ? Peut-être de ses incessantes allées et venues à la salle de fitness, ou peut-être même de sa longue chevelure. C'est ce qu'on pourrait croire en lisant l'histoire de Samson. Un peu longue à lire, puisqu'elle tient sur 4 chapitres. Non, cette force, bien sûr, lui venait de Dieu, qu'il lui avait donné dans le cadre de son naziréat, et en l'occurrence, son ministère de juge. Qu'est-ce que c'est ce naziréat ? Bien, la mère de Samson, qui était stérile, reçut un jour la visite de l'ange de l'Éternel. Ah tiens, comme Sarah, par exemple, qui avait reçu, qui était stérile, qui avait elle aussi reçu la visite de l'ange. Ou encore Marie, la mère de Jésus, mais Marie n'était pas stérile. Donc elle reçut la visite de l'ange qui lui dit qu'elle allait bientôt devenir enceinte et donner naissance à un fils. Et ce fils, ses parents devraient le consacrer à Dieu pour toujours. C'est ça, le naziréat. Et ici, dans le cas de Samson, il s'agissait donc d'un naziréat perpétuel. Parce que plus tard, il a aussi été question de naziréat temporaire, pour un service de Dieu particulier. Et alors, une des marques de cette consécration était justement de ne pas se couper les cheveux. En outre, le naziréen devait faire vœu de sainteté et de s'abstenir de toute boisson alcoolisée, de vinaigre fait avec du vin, et même de raisins frais ou de raisins secs. On voit ça dans Nombre 6, versets 3 à 5. Et puis la promesse que l'ange de l'Éternel a faite à la mère de Samson, c'est que ce fils serait l'homme qui commencerait à délivrer Israël de la main des Philistins. Qui était Samson? Je parlais tout à l'heure de certains juges qui étaient dans le genre costaud. Samson en est le prototype. C'était aussi un personnage haut en couleur. Et malheureusement, à l'occasion, aux mœurs légères. Alors, ce n'est bien sûr pas de ça qu'on veut parler, puisqu'il s'agit pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux de souligner la foi de Samson. Mais j'ai trouvé que Jean-Augustin Bost, dans son dictionnaire de la Bible, édité à Paris en 1865, donnait un bon résumé de la personnalité du juge Samson. Écoutez, vif et bouillant de caractère, vif et bouillant de caractère, emporté, mais gai, ironique, presque bouffon, il se fait un jeu des travaux les plus gigantesques et dépense parfois ses forces en pure perte, pour étonner plus que pour nuire, avec ironie et malice. C'est presque toujours à l'improviste, d'une manière inattendue, qu'il apparaît. Et ses vengeances particulières servent souvent la vengeance nationale. Fin de situation. Malheureusement, Samson, comme d'autres serviteurs de Dieu, et parfois non des moindres, comme Salomon, justement, se perdra à cause de son amour des femmes. Trompé par la ruse de Delila, une prostituée chez qui il s'était rendu, Samson perdra sa grande chevelure, laissant échapper du même coup son naziréat, et donc aussi la force que Dieu lui avait accordée pour son ministère de juge et de libérateur de son peuple. Samson sera alors emprisonné par les Philistins, qui lui crèveront les yeux. Mais plus tard, quand ses cheveux auront repoussé et qu'il se sera sans doute repenti de ses péchés, Dieu lui redonnera sa force initiale. Et une force telle qu'un jour, alors que les princes des Philistins s'étaient réunis pour de grandes réjouissances en l'honneur de leur dieu Dagon, et qu'ils avaient fait venir Samson pour les divertir, pour que tout le monde puisse sans doute se moquer de lui, Samson, qu'on avait placé entre deux énormes colonnes qui soutenaient le toit de l'édifice sur lequel s'était assemblée une multitude, une foule immense de convives, Samson donc réussit à ébranler ces colonnes à tel point que le toit s'est effondré sur toute l'assemblée avec l'assemblée qui avait dessus, et ils sont tous morts. Mais le toit s'est aussi effondré sur Samson, qui est mort également. Mais ce jour-là, une grande victoire fut remportée contre les Philistins qui opprimaient Israël. Vous voyez, avec Samson, on a affaire à un homme avec une personnalité très particulière, mais que Dieu a néanmoins choisi. Il l'a choisi et il l'a équipé pour être le libérateur de son peuple. Et de son côté, Samson, au travers de tout ce qu'il était, a manifesté une foi évidente en acceptant de mourir pour le salut de son peuple. Et puis pour nous, je voudrais dire, en considérant le personnage de Samson, que nous sommes encouragés. Et en quoi sommes-nous encouragés ? Eh bien, parce que nous n'avons pas besoin de jouer un rôle. Non. Dieu veut nous employer tels que nous sommes. Je ne parle bien entendu pas ici du péché que nous devons chercher à bannir de nos vies, puisque le Seigneur Jésus-Christ nous en a purifiés sur le bois de la croix. Mais ne cherchons pas à paraître quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. La personnalité que Dieu a tissée lui-même dans le ventre de notre mère, c'est celle-ci que nous devons employer au service de Dieu. Jephté, maintenant. Encore un homme à la naissance particulière. Encore une histoire de prostituée. Décidément, la Bible est d'une franchise, d'une sincérité presque déconcertante. Donc le père de Jephté, Galaad, était allé voir une prostituée. Et Jephté, justement, est le fruit de cette rencontre. Seulement, les demi-frères de Jephté, les, entre guillemets, les bons, comment on peut dire ça, les fils, comment est-ce qu'on dit ça ?
Légitimes.
Merci. Les fils légitimes de Galaad n'ont pas accepté que Jephté hérite avec eux, puisque sa mère était une étrangère, une prostituée. Et ils l'ont chassée. C'est comme ça que Jephté s'est réfugié dans une autre contrée et qu'il est devenu chef de bande. Il faisait des coups. Seulement, entre-temps, les Ammonites ont commencé à faire la guerre à Israël. Et alors, qui est-on venu chercher pour combattre les Ammonites ? Qui a-t-on voulu prendre comme chef des troupes israélites, et en l'occurrence de la tribu de Galaad, parce que c'était elle qui était attaquée ? Jephté. Écoutez ce passage de Juges 11, versets 5 à 10. Comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephté répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous maintenant à moi parce que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephté répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Admirable parole de Jephté, rejeté par les siens, mais qui ne leur en garde aucune rancune, tout en restant néanmoins prudent. Mais surtout, on reconnaît une belle dose d'humilité chez ce nouveau juge. Il veut bien être leur chef, mais à la condition que cette nomination soit validée par l'Éternel lui-même. Vous voyez, Jephté ne compte pas sur ses propres qualités de chef, sur ses capacités stratégiques pour être reconnu, mais seulement sur l'approbation de Dieu. Et est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est là une des marques fondamentales de la foi, de cette foi qui nous rend agréable à Dieu? Que nous ne cherchons pas l'approbation des hommes, mais celle du Seigneur. Quand en toute chose, nous cherchons à être approuvés par Dieu. Ça nous rappelle ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, dans le premier chapitre, verset 10, qui dit ceci: « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ou bien dans sa première aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, où Paul dit que « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » Plaire à Dieu. Telle devrait être notre constante préoccupation au travers d'une foi obéissante et reconnaissante. Une autre belle caractéristique de Jephté, c'est qu'au travers de sa foi, de sa confiance en Dieu, il ne va pas directement à la confrontation contre le roi des Ammonites. Non, d'abord, il cherche un terrain d'entente. Il use de diplomatie pour éteindre le feu plutôt que d'attiser les braises, comme on l'a fait hier matin à Evolène avec les enfants. Non, ne pas réagir immédiatement par une riposte cinglante et meurtrière. D'ailleurs, l'Écriture nous exhorte de nouveau par la plume de l'apôtre Paul de rechercher, si c'est possible et si ça dépend de nous, la paix avec tous les hommes. Et en tout ça, Jephté s'appuie sur l'Éternel en invoquant son nom pour qu'il soit, lui, l'Éternel, juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Et que si la guerre doit avoir lieu, qu'elle n'ait lieu que par la volonté de Dieu. Et comme le roi n'écouta rien du tout des paroles de Jephté, alors la guerre a bien eu lieu. Et c'est là, malheureusement, que nous trouvons une faille terrible chez Jephté. Parce que tellement sûr de sa victoire, il a prononcé un vœu complètement insensé à l'Éternel. Il lui a dit ceci, donc c'est Jephté qui parle à l'Éternel: « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Paf. Et vous vous rappelez qui est sorti le premier de sa maison au retour de sa victoire contre les Ammonites? Sa fille unique, au grand désespoir de son père. Mais on ne va pas parler de ça maintenant pour chercher une explication plausible à tout ça. Parce que bien des exégètes, bien des commentateurs se sont déjà cassés les dents sur cet os. Mais on trouve des choses très intéressantes. Avant de conclure, disons encore que, hélas, après la mort du dernier juge, Samson, un désordre total s'établit en Israël. Et chacun faisait de nouveau ce qui lui semblait bon. Donc notre conclusion du jour est celle-ci. C'est que derrière tous les événements, derrière tous les faits de l'histoire biblique, on retrouve nécessairement la foi en action. C'est la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui nous permet de reconnaître la valeur spirituelle des événements. Et nous voyons que Dieu agit le plus souvent en réponse à la foi des hommes qu'il a lui-même appelé pour tel ou tel ministère. C'est mystérieux, mais c'est un fait. Il s'attend en nous appelant à lui, alors bien sûr à notre niveau, parce que nous ne sommes pas des juges pour Israël, ni pour l'Église, mais le Seigneur s'attend à ce que nous mettions en action notre foi, puisque Dieu agit au travers de la foi de ceux qu'il appelle. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est dans notre obéissance à sa parole, dans notre dépendance de lui, dans notre adoration envers lui, qu'il va pouvoir œuvrer au travers de nous. Voilà, et bien la prochaine fois, c'est promis, nous terminerons ce 11e chapitre. Amen.